Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois Catherine Marshall. Catherine Marshall est professeure en histoire et civilisation britannique à Cergy Paris Université et en ce moment professeure invitée à l'Université d'Oxford. Bonjour Catherine Marshall.
Bonjour.
Le 6 mai 2023 se déroulera le couronnement du roi Charles III. C'est un événement très important pour la famille royale britannique qui prépare tout dans les moindres détails depuis de nombreuses semaines. En Grande-Bretagne, on prévoit d'ailleurs 3 jours de festivités. C'est le couronnement d'un monarque, c'est un événement historique, diplomatique, mais aussi médiatique. Catherine Marshall, pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que représente le couronnement d'un monarque britannique ?
Oui, alors nous sommes vraiment les témoins de l'histoire en marche, puisque finalement le couronnement de Charles III est la suite logique de la séquence qui a été vécue avec les obsèques de sa mère en septembre dernier. Donc, si les obsèques consacraient la souveraineté en honorant un personnage qui était inscrit dans l'histoire et dont le premier ministre était Winston Churchill, le couronnement du nouveau roi est là pour consacrer un règne qui débute et qui doit inciter à une forme d'allégeance. Rappelons que Charles devient roi à l'âge de la retraite, 74 ans, et n'est pas du tout aussi respecté que sa mère et que son premier ministre, à lui, était la conservatrice Liz Truss, dont personne ne veut se souvenir. Donc du coup, quelque part, on peut comprendre l'importance du cérémonial de ce couronnement, car les rituels vont renvoyer à la reconnaissance et à l'affirmation de sa souveraineté. C'est un peu aussi comme si son histoire personnelle, celle d'un individu plus connu pour son mariage malheureux, va un peu se juxtaposer avec l'épopée nationale et avec les mythes et les certitudes de ce moment. En étant couronné, Charles va prendre place dans la lignée des souverains et il va pouvoir faire remonter sa filiation au roi Egbert, qui était l'unificateur de l'Angleterre au début du IXe siècle. On peut aussi dire que ce couronnement va permettre de concilier 2 rôles, celui du chef de l'État, qui est le rôle strictement institutionnel, mais c'est surtout celui du chef de la nation qui est important, c'est-à-dire ce que vous êtes. Et donc, il s'agit d'un moment qui va être un moment historique central, qui va mettre en scène la nature du consentement envers le nouveau roi.
Et alors concrètement, comment il va se dérouler ce couronnement ?
Alors, en l'abbaye de Westminster à Londres, il y aura environ 2000 invités, mais il a même fallu limiter le nombre des pairs du royaume pour faire de la place. Il y aura d'abord une procession. Alors, on ne connaît pas encore la taille de cette procession, mais elle devrait s'avancer avec un mouvement de balancier qu'on a pu voir au moment des obsèques de la reine. Il va être mené par les pairs les plus importants du royaume, chacun portant les insignes de la royauté. Donc, il faut sans doute rappeler ici que le monarque est chef de l'Église d'Angleterre et que donc la cérémonie va être célébrée par le primat de l'Église d'Angleterre, qui est Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, enfin Canterbury comme on dit en français, qui est le chef spirituel de l'Église d'Angleterre. Et donc le cérémonial va se tenir au sein de cette abbaye. Et ce cérémonial remonte à Richard II à la fin du XIVe siècle et il compte 5 éléments essentiels qui seront repris. Donc, le premier qui est la reconnaissance, ce qu'on appelle le moment où le monarque est présenté à l'assemblée de la cathédrale pour lui demander si elle accepte de le servir. Les présents vont à loin répondre que oui, elles acceptent de lui rendre hommage et vont répondre par ces mots « God save King Charles III ». Donc, ce sera l'élément électif du couronnement qui a plus de 1000 ans. Puis va venir le serment, donc ce qu'on appelle the oath. C'est la partie vraiment initiale qui n'a pas non plus changé depuis plus de 1000 ans. Le roi va jurer de gouverner selon les lois et les coutumes du pays. Mais le serment a été renforcé en 1689 en y ajoutant de maintenir la religion protestante réformée qui a été établie par la loi. Donc le serment est double ici. Hein. Il engage à la fois le roi, qui n'est pas au-dessus des lois, et son peuple qui va devoir lui obéir. Donc, ensuite, assis, finalement, il est en face du cœur de l'abbaye, hein. Il va être assis sur le trône de Saint-Édouard, donc, qui est depuis 1308, le trône sur lequel tous les souverains sont couronnés, et sous lequel se trouve la pierre de Scone, la pierre sur laquelle étaient couronnés les monarques écossais. Et donc, à ce moment-là, l'archevêque de Canterbury va faire le 3e élément, qui sera l'onction. Et là, c'est vraiment le moment le plus sacré du couronnement où l'archevêque va consacrer le roi par l'onction sur de l'huile bénie sur le front, la poitrine et les mains. C'est le moment où l'homme est fait roi, donc vraiment est sanctifié par Dieu. À ce moment-là, le roi sera dépouillé de sa parure. Il portera une tunique simple pour en fait montrer combien il se montre à Dieu seul. Puis, il y aura le moment de l'investiture où le roi sera paré d'une tunique blanche recouverte d'or et d'un manteau impérial qu'on appelle la robe de vertu et il sera couronné avec la fameuse couronne de Saint-Édouard qui en fait est vraiment la couronne qu'on utilise simplement à ce moment, le moment du sacre. Et à ce moment-là, l'assemblée dira « God save the king ». Et enfin, le cinquième élément sera l'hommage. Le roi recevra l'hommage de chacun des représentants des titres des pairs du royaume, donc de duc, marquis, comte, vicomte, baron, même si on ne sait pas encore exactement comment ce sera fait, parce que ça avait pris beaucoup de temps en 53. Et ils vont jurer allégeance au nouveau roi. Donc ces cinq éléments, ils sont obligés d'être là, parce que finalement, cette cérémonie remonte dans le temps. Et puis après, le roi va se retirer un instant dans la chapelle Saint-Édouard pour ôter la couronne de Saint-Édouard, qui sert qu'une fois, et il va mettre la couronne de travail, qu'on appelle la couronne d'État impérial. Et donc, on le comprend, le rituel mêle des éléments sacrés, essentiellement religieux, traditionnels, liés à l'histoire du royaume, et séculiers. Et c'est là qu'il y a une forme de tension. C'est là qu'il faut bien réussir. En tant que nouveau chef de l'Église d'Angleterre, de pouvoir représenter une nation multiculturelle et multifoi.
Est-ce qu'il y a des sacres qui ont marqué plus particulièrement l'histoire de la monarchie anglaise ?
Alors oui. Et alors là, je vais me faire plaisir en vous racontant en fait sans doute le couronnement que je préfère, qui est le couronnement de William the Conqueror, donc Guillaume le Conquérant, en 1066.
Que l'on a évoqué d'ailleurs au cœur de l'histoire dans notre récit.
Ah, voilà. Et donc, alors il faut rappeler que 1066 était une année sanglante, puisque Édouard le Confesseur, donc Edward the Confessor, est mort en janvier 1066 sans descendance, et il était le roi d'une lignée de Saxons. Et donc, il laisse plusieurs héritiers potentiels, dont Guillaume, mais finalement, ce sera Harold, comte de Wessex, qui va se saisir du trône, ouvrant une année de lutte infernale qui va se solder le 14 octobre 1066 avec la fameuse bataille de Hastings. Voilà, où Guillaume va s'imposer dans un pays, mais qui ne lui est pas encore acquis. D'où, en fait, le couronnement à Londres va être un couronnement capital pour asseoir sa légitimité, alors que les ducs de Normandie n'étaient pas couronnés. Donc, Guillaume choisit le rituel anglais pour revendiquer son lien avec le nouveau royaume, tout en imposant une nouvelle noblesse, la noblesse normande, face en fait à l'aristocratie anglaise qui va se retrouver aussi en concurrence. Donc, Guillaume est couronné roi des Anglais dans l'abbaye de Westminster le jour de Noël, dans une ambiance assez tendue. Et c'est au moment du premier cérémonial que je viens de vous décrire, celui de la reconnaissance, que va se produire quelque chose d'inattendu. Vous vous souvenez que la reconnaissance est l'élément électif du couronnement. Donc le monarque est présenté à l'assemblée de la cathédrale pour lui demander si elle accepte de le servir. Et les présents répondent « God save King », dans ce cas King William. Mais les barons normands, voulant clamer plus fort leur reconnaissance au roi, se sont retrouvés face à une aristocratie anglaise qui ne voulait pas rester, qui ne voulait pas être en reste. Et elle a fait autant de bruit. Et du coup, les gardes qui étaient à l'entrée de l'abbaye ont commencé en fait à s'inquiéter en entendant ces bruits d'hommes, pensant qu'il y avait eu un soulèvement. Et étant donné les tensions entre les deux camps, ils ont décidé de façon un peu surprenante qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et dont ils ont décidé de mettre le feu aux maisons qui étaient proches de l'abbaye et qui étaient faites de bois. Et du coup, toutes les maisons autour se sont embrasées. La fumée s'est engouffrée dans l'abbaye. Ils ont forcé les présents à sortir, laissant Guillaume apparemment tremblant et qui a insisté pour que le couronnement se fasse et donc dans des conditions qui étaient proprement incroyables.
Mais il a eu raison de tenir bon puisqu'il a été reconnu par la suite. Alors justement, on ne peut pas comparer tous les couronnements. Catherine Marshall, le dernier grand couronnement était celui d'Elisabeth II en 1953. Est-ce qu'il va y avoir des différences entre celui de son fils et le sien ?
Alors, oui et non. En effet, le couronnement de 53 était quelque chose qui est, c'est quelque chose d'impossible à refaire de nos jours. 8000 personnes dans l'abbaye qui a été fermée pendant des mois pour permettre la mise en place de gradins. Donc, cette fois-ci, ce sera 2000. Une procession extrêmement longue. Tous les pairs du royaume en robe de cérémonie avec leur couronne. Tous les représentants du Commonwealth. Plus de 12000 militaires impliqués. De nos jours, en fait, cette cérémonie est absolument, était absolument incroyable. Le couronnement à l'intérieur de l'église de Westminster, c'était incroyablement long, 3 heures, mettant en scène des traditions ancestrales et d'autres inventées. Le tout ancré dans une liturgie anglicane. Donc, de nos jours, ce serait à la fois déplacé, d'imaginer un tel couronnement. Et puis, cette fois-ci, il y a quelque chose de complètement nouveau qu'on va voir, puisqu'on ne l'a jamais vu, c'est que Charles ne sera pas couronné seul, il sera couronné avec sa reine. Et c'est en ce sens aussi que pour nous, il va s'agir d'une première. Donc franchement, pour nous, c'est vraiment l'histoire en marche.
Et alors, pourquoi le couronnement d'Élisabeth II a été considéré comme l'événement du siècle ?
Alors, il a été retransmis pour la première fois par la télévision. Et donc, il a pris un caractère collectif et qui s'est trouvé amplifié par, finalement, une diffusion de masse. Mais c'est l'événement du siècle, enfin, parce que, finalement, il faut se souvenir qu'en 53, le pays sort à peine de la Seconde Guerre mondiale et il vit encore des privations. Il doit se reconstruire, il y a des manques de logement, un manque de légèreté. Finalement, c'est un pays qui est en noir et blanc. Et c'est à ce moment-là que vient le couronnement. Élisabeth est très jeune, 25 ans, 26 au moment de son couronnement. Il faut se rappeler qu'elle a le même âge que la reine Élisabeth Ière au XVIe siècle. Donc, il y avait eu un règne de 45 ans. Il y a quelque chose de magnifique avec cette reine. Jeune, belle, mariée à un homme beau, grand, avec une famille assez idéale. Deux jeunes enfants à l'époque, puisqu'elle n'en avait pas encore quatre, Charles et Anne. Et ils sont modernes, avec une envie de comprendre la période, de sortir de l'Empire. Ils comprennent la décolonisation. Elle comprend l'importance du Commonwealth. Et donc, du coup, le moment est long, le couronnement est long, mais c'est aussi un moment féerique. La beauté des vêtements, des bijoux, des couleurs, de la musique, c'est un rassemblement national, non pas pour faire la guerre, mais finalement pour célébrer un moment spécial hors du temps, traditionnel. Donc, elle représente, Élisabeth en 53, un peu la reine parfaite, jeune, belle, bien mariée, tournée vers l'avenir. Elle est l'image parfaite de l'espoir et de la tradition. Et puis, elle est une femme. Rappelons que finalement, elle vient, la reine qui avait eu avant elle, c'était Victoria, et c'était en effet un très long règne. Donc oui, c'était un moment très spécial.
On voit que les trois grandes reines d'Angleterre ont eu trois règnes particulièrement longs. D'ailleurs, le couronnement d'Élisabeth II est retransmis à la télévision pour la première fois à la BBC. D'où vient cette idée ?
Alors, le couronnement de 53 est le premier télévisé, vous avez raison, mais il faut pas oublier que celui de George VI, son père, en 36, avait été retransmis par la radio et commenté en direct. Et du coup, quelque chose avait déjà été dévoilé du couronnement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Winston Churchill était complètement contre le fait que la cérémonie soit filmée. Mais c'est la reine elle-même, et soutenue par son mari, qui a souhaité partager ce moment avec le plus de monde possible. Et on voit bien que chez elle et son mari, le duc d'Édimbourg, il y avait cet esprit de vouloir démocratiser la cérémonie du couronnement et ne pas simplement le réserver à la noblesse et aux invités triés sur le volet rassemblés en l'abbaye de Westminster. Donc le problème de cette stratégie, c'est que c'est une porte ouverte. C'est qu'une fois que vous faites ça, vous êtes obligé finalement d'ouvrir la monarchie pour qu'elle soit vue de l'intérieur. Et ça a causé pas mal de problèmes, en particulier en 69 avec le documentaire sur la famille royale, qui les montrait en train de faire un barbecue et qui finalement les montrait dans une situation où ben, il y avait quelque chose du sacré qui leur était retiré.
Et d'ailleurs, en parlant de sacré, il y a un passage qui n'a pas été retransmis par la BBC. C'est le moment où Élisabeth II est ointe avec le Saint-Crème. Alors, pourquoi ce passage a été coupé ?
Alors, vous avez raison. Le moment de l'onction a été considéré comme trop sacré, finalement. C'est le moment où le monarque est oint par l'archevêque de Canterbury. Il a été décidé que c'était vraiment un moment intense entre le monarque et Dieu et que finalement, il n'était pas correct de le présenter à la télévision. Ce qui est intéressant, c'est que Charles III a aussi décidé de ne pas le montrer. Donc du coup, on ne le verra pas non plus. Mais ce qu'on a oublié, parce que pour préparer cette émission, j'ai re-regardé les trois heures du couronnement d'Élisabeth en 53, c'est qu'il y a un deuxième moment qui n'a pas non plus été montré, qui est celui de la prière du couronnement, le moment où la reine et son mari ont prié juste avant de communier, et ce moment de communion n'a pas non plus été montré. Et j'étais vraiment très surprise de voir que ces deux moments qui étaient intenses et privés, finalement relevaient du sacré réel, c'est-à-dire le moment d'une prière intense entre l'archevêque de Canterbury, la reine et son prince. Mmh. Et donc cette fois-ci, on verra si oui ou non on voit cette prière. Je ne sais pas.
C'est tellement dommage pour l'onction parce que c'est un moment historique qui existait aussi dans le sacre des rois de France. On adorerait voir ça.
Oui, vous avez raison, mais il y avait chez Elisabeth en 53 l'idée que l'huile est aussi posée sur le cœur et que donc en fait on avait aussi cette idée en 53 de peut-être pas voir une partie même si elle portait une robe, voilà, de tissu, voilà. Mais on peut imaginer que cette part de sacré est quelque chose de très fort, et d'ailleurs on peut imaginer que comme ils sont tournés vers l'autel, personne d'autre quasiment ne le voit.
Et le roi va recevoir les régalias, les objets du pouvoir. Alors, quels sont-ils aujourd'hui ?
Alors, en effet, il s'agit des symboles de la royauté qui représentent son pouvoir et sa responsabilité. Alors, ils ont tous un sens, même si on ne les retient pas vraiment. Mais bon, je vais un peu vous les citer rapidement. Donc, on a déjà parlé de la couronne de Saint-Édouard qui est utilisée pour le moment du sacre et de la couronne impériale de l'apparat qui, en fait, sert ensuite comme couronne de travail. On appelle ça the working crown. Mais il y a 6 éléments qui viennent affirmer la royauté. Donc le premier qui est l'orbe du souverain, donc qui est un globe creux et en or, et qui est le symbole que le pouvoir du monarque est dérivé de Dieu. Il est utilisé à chaque couronnement, on l'a vu au moment des obsèques, sur le cercueil de la reine. Donc il contient des gemmes de grande valeur, dont 365 diamants roses, et il a été refait en 1661 pour le couronnement de Charles II. Ensuite, vous avez le sceptre royal à la croix, qui est l'insigne de la royauté et qui représente le pouvoir temporel du roi ou de la reine, et il est associé à la bonne gouvernance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la reine Camilla, elle tiendra, elle, le sceptre royal à la colombe. On n'était pas sûr de le voir parce que une partie du sceptre est fait d'ivoire, ce qui est compliqué. Ce qui est fragile et surtout pas acceptable de nos jours. Et donc du coup, il est très beau parce qu'il symbolise le Saint-Esprit, mais c'est elle qui le portera. Alors il y a aussi un aspect très important, c'est l'anneau du souverain. C'est un très bel anneau qu'on appelle l'anneau de la dignité royale, qui symbolise l'alliance de Dieu et du roi, et donc qui est serti de rubis et qui a une croix, donc qui rappelle aussi de Union Jack. Il y a aussi 2 bracelets faits d'or. Alors ce qui était fait d'or pour en 53 pour la reine, mais qui seront les bracelets d'origine qu'on appelle de sincérité et de sagesse. Et ensuite vous avez les 5 épées. Alors, l'épée empierrée d'offrande, l'épée de la justice temporelle, celle de la justice spirituelle, l'épée de la clémence, et ensuite l'épée la plus importante, l'épée d'apparat, qui est l'épée d'État, qui symbolise la défense de l'Église et du peuple. Et ensuite, vous allez voir, c'est ce moment un peu bizarre, vous allez voir les éperons royaux, qui sont liés au rituel d'adoubement des chevaliers, qui était utilisé pour le couronnement de Richard Ier en 1189, et qui représentent les valeurs et les vertus chevaleresques du roi, qui doit protéger les pauvres et l'Église.
Pour conclure en quelques mots cet entretien passionnant, Catherine Marchal, est-ce que Charles III va moderniser le sacre ou est-ce que finalement il va respecter la tradition ?
Alors, il doit concilier tradition et modernité, et c'est cela toute la difficulté. C'est-à-dire que la cérémonie sera plus courte, on pense qu'elle va durer 1 heure et non pas 3. Elle va être beaucoup plus inclusive, les pairs du royaume ne vont pas dominer le couronnement, ils ne seront pas en habit de cérémonie avec leur couronne, ils n'auront peut-être même pas leur épouse. Ils ne seront pas du tout aussi nombreux, ils vont faire la place à des invités du gouvernement et du monarque représentant des organismes de charité, des sections de la société qui sont généralement peu représentées, et les dignitaires du Commonwealth. Il n'y aura pas de place non plus pour les époux et épouses des membres du gouvernement.
Mais c'est politique tout ça comme choix.
Voilà. Mais aussi le roi, qui est un grand amateur de musique, a demandé la formation d'un orchestre du couronnement dont les membres vont faire partie des orchestres dont il est le mécène et représenter les nations du royaume. Il y aura aussi 12 nouvelles compositions pour l'occasion. Et il a inclus un chant ancien orthodoxe en hommage à la famille grecque de son père. Et enfin, le jour de la cérémonie, il y a aucun doute pour qu'il fasse la place à d'autres confessions. Donc on va voir comment ce sera fait. Il va aussi inclure les futures générations. Le prince George sera l'un des pages. Mais sa sœur, la princesse Charlotte, et même le prince Louis, qui a 5 ans, seront inclus dans la procession finale. Et enfin, ça c'était très intéressant, les petits-enfants de la reine Camilla seront aussi présents à ses côtés, ce qui reste un geste d'ouverture pour toutes les familles recomposées. Donc il est certain que ce couronnement sera à l'image du nouveau roi, mais il y aura une part de mystère qui est encore gardée sur le jour même de la cérémonie.
Merci Catherine Marchal pour cet éclairage passionnant sur le couronnement des monarques anglais. On a hâte de découvrir celui de Charles III. Vous venez de co-diriger le dernier numéro de la revue française de civilisation britannique sur le conservatisme One Nation de Benjamin Disraeli à Boris Johnson. Votre dernier article est l'éducation constitutionnelle d'Elisabeth II et sa mise en pratique, parue dans la revue Pouvoir en septembre dernier. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.